7h32 minutes, c'est 14 degrés sur Québec, ça devrait se réchauffer. Quelle belle soirée on a eue hier. Je sais pas si vous avez eu le temps d'en profiter à l'extérieur, là, mais j'avais beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui se faisaient des petits feux.
C'est clair.
Ouais. Pendant que le maire il s'en va demain, ça sera le temps d'en profiter. Faites des petits feux extérieurs.
Ouais,
là.
C'est vrai. Pendant que c'est encore possible.
Exact.
On sait jamais ce qui peut arriver.
Ah ouais, je te le garantis que ça s'en vient. Là, l'interdiction des feux à ciel ouvert dans la grande région de Québec. Généralement nuageux pour aujourd'hui, 30% de probabilité d'averse max de 22. Des possibilités d'orage aussi cet après-midi.
Sur la route, c'est vendredi, ça roule très bien. Il y a deux points un petit peu plus chaud en R4 Sud, hauteur de la 40 / Charest. Et ouais, même là, Capitale Ouest, l'entrée, mettons, quand tu arrives par Laurentienne Sud, mais faut le dire vite.
Merci beaucoup. Mathieu qui nous écrit via le texto 418-971-101, dit « Salut, j'ai 41 ans, j'étais un accro à la boisson énergétique Monster et c'est vraiment un gros combat pour arrêter. Faut qu'aucun enfant ne touche à cela. »
Et voilà.
Puis combien de personnes qui travaillent extrêmement fort physiquement ont besoin d'un petit boost, là, tu sais, après le midi, quand t'as... sur l'heure du midi, tu manges.
Oui.
Puis là, après ça, faut que tu reviennes à la job, mais t'es comme un... comme un petit down.
Ben, t'imagines, là...
Les gars de construction,
ben, c'est ça que j'allais dire, les gars de construction qui ont travaillé physiquement toute la matinée.
Ils se tapent un petit monster, mais là, si les gars de construction, il y en a qui n'ont pas notre grosseur, il y en a qui ont comme deux fois notre grosseur.
Ouais,
là,
ouais.
Fait que là, un deuxième monster pour que ça fasse un petit hype de plus, tu deviens accro à ça. Puis c'est hyper... dangereux parce
c'est nocif.
Que ça te fait faire de l'arythmie cardiaque. Puis si tu vas chez le médecin va regarder ça, puis en te souhaitant que tu finisses pas avec un pacemaker, mon ami. On me dit que le vrai danger, c'est le pamplemousse. Ouais, à 8h30, Éric Duhaime va être avec nous autres. Là. Comprends pas pourquoi il s'oppose à ça, mais anyway, c'est une autre histoire. Sommes-nous en récession technique? La réponse est oui. Sommes-nous un des seuls pays du G20 à être en récession technique? La réponse, c'est oui. Le pourquoi? Bon, on aura peut-être notre réponse. On a le plaisir de passer avec le leader du Québec pour le Parti conservateur du Canada, Pierre Paulus, qui est au bout du fil. Salut, Pierre Paulus.
Bonjour à vous deux.
Merci d'être là. Comment on s'explique qu'on soit un des... Ben, en fait, le seul pays du G20 ou tient du G7, là, si on veut être plus précis, à être en récession technique? Comment on a réussi à faire ça? Là? Je veux dire, c'est pas une réussite.
Ben, il y a plusieurs facteurs. Je pense que c'est sûr que la guerre commerciale n'aide pas, mais il reste que le Canada est en manque de productivité, ça c'est clair.
Mais la guerre commerciale, on n'est pas le seul pays qui est en guerre commerciale avec Donald Trump. Le Mexique, entre autres, est en guerre commerciale avec Donald Trump, puis le Mexique semble s'en tirer mieux que nous autres.
Oui, c'est sûr, absolument, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a des facteurs différents au Canada, parce que notre économie étant tellement intégrée avec les États-Unis, c'est sûr que ça frappe davantage, mais c'est pour ça qu'on va parler probablement de la tournée que je suis en train de faire là-dessus, mais il reste que la récession, quand on voit M. Carney, ça c'est le plus fâchant, c'est que M. Carney, il y a deux semaines à la Chambre des communes, il dit « on a la deuxième meilleure économie du G7, puis tout va bien, la vie est belle ». En même temps, ben là, on apprend que non. Deux trimestres en ligne en récession. On a les chômeurs, 112 000 Canadiens qui sont tombés sur perdu leur emploi depuis le début de l'année. Fait qu'à un moment donné, faut arrêter de mettre des lunettes roses. Il y a vraiment un problème. Puis qu'est-ce qui explique ça? Oui, tout le monde a les mêmes facteurs. C'est pour ça qu'on doit creuser davantage, parce qu'on se dit pourquoi les autres pays du G7 qui vivent aussi les problèmes en Iran, qui vivent aussi les problèmes avec Donald Trump, pourquoi que nous, au Canada, on est en bas de l'échelle? Là. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, c'est ça. Je parle un peu de la tournée que je suis en train de faire justement avec des collègues. On fait le tour depuis 3 jours. On a fait 5 régions du Québec. Puis on rencontre des entrepreneurs, des entreprises manufacturières de différents niveaux, soit qui ont des milliers d'employés ou d'autres plus petites, des PME. Puis le message qui est ressorti de là, c'est de dire, le Canada, là, on s'est vraiment mal préparé depuis des décennies. On s'est vraiment pas mis à une position de se protéger, d'empêcher le dumping chinois, par exemple. On a on n'a pas de barrière. Fait que tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, puis nous aussi, ben, on subit les contre-coups. Ça, c'est une des explications, mais bon. Mais il reste que faut pas se fermer les yeux. Oui, il y a une récession. Deux trimestres consécutifs, on appelle ça une récession. Là, même s'il y en a qui vont trouver des façons d'expliquer que non, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça.
Ben, c'est parce que les chiffres sont pas hyper stressants, mais n'en demeure pas moins que les deux trimestres ont été négatifs. Donc, on appelle ça une récession technique. Puis, il y a des pertes d'emploi. Puis, comme vous le dites, il y a le chômage qui a augmenté. Est-ce qu'on va s'en aller sur un troisième trimestre négatif, selon vous?
On nous dit que non, espérons, parce que honnêtement, notre objectif, même si on est conservateur, on regarde les libéraux, c'est pas de faire des gains politiques avec ça. Personne ne trouve ça drôle. On veut au contraire améliorer la situation du pays puis avancer. Espérons qu'on va revenir dans le positif, mais il reste que pour l'instant, ce qui est important d'entendre de la part de M. Carney, c'est de pas nier le problème, puis plutôt de dire exactement ce qu'il fait, au lieu de créer des bureaux de fonctionnaires davantage à Ottawa, là, d'avoir des gestes concrets pour aider l'économie. Parce qu'à chaque fois, de ce qu'on voit, il y a beaucoup de belles images puis d'intentions positives, mais dans les faits, quand tu regardes ça, tu vois, mais c'est parce que là, dans la vraie vie, tous les jours, là, ça donne à rien, là, ça marche pas. Et on parle, exemple, du pipeline. Il y a beaucoup de discours autour de ça, avec l'Alberta, puis qu'on va faire des nouveaux pipelines vers l'Ouest. Mais quand tu regardes les lois qui ont été mises en place par les libéraux dans le temps de Trudeau, puis ça fait un an que M. Carney est là, puis ça fait un an qu'on dit qu'il faut faire sauter ces lois-là, parce qu'on peut pas légalement passer des pipelines si la loi reste comme elle a été mise en place, puis il bouge pas. Fait que c'est pas clair.
Mais là, Mark Carney, est-ce qu'il bénéficie encore d'une lune de miel? Puis pourquoi? Je veux dire, on n'a jamais eu un premier ministre aussi dépensier. On pensait avoir atteint le sommet avec Justin Trudeau. Finalement, lui qu'on a mis en place est encore plus dépensier. Pensons entre autres aux trois voyages à l'international qu'il a fait où ça a coûté 200 000 piastres de bouffe. Je ne sais pas ce qu'il mangeait dans cet avion-là. Mais ouais, est-ce qu'on sait ce qu'il mangeait dans cet avion-là pour 200 000 piastres de bouffe pour trois voyages?
J'ai pas ça avec moi, mais on a une liste. Écoutez, c'est sûr qu'il lésine pas là, sur les dépenses. Là. C'est des bons repas, du vin. C'est comme... M. Carney agit plus comme un chef d'entreprise qui est sur un compte de dépenses là, sans limite. On a l'avion privé, on a les gardes de sécurité, puis on part, puis on se promène.
Non, mais 200 000 de nourriture, pourquoi ça convainc pas les Canadiens que c'est un grand dépensier? Ma question, c'est pourquoi il bénéficie encore d'une lune de miel là, au Canada, Mark Carney?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Mais parce que je sais pas, il faut... pourtant, il y a des médias qui en parlent. Je sais pas, ça se parle un peu partout, les médias sociaux aussi, mais pourquoi qu'il est sur un nuage encore, c'est une très bonne question, mais il reste que moi, je pense qu'un jour, la réalité va le rattraper. Puis, justement, les finances du pays, on a annoncé des déficits astronomiques, et là, on a des indicateurs qui nous disent que le déficit va être encore plus élevé que ce qui est annoncé. Donc, on est loin de s'améliorer. Au contraire, et on est effectivement pire que dans le temps de Justin Trudeau. Il y a des décisions à prendre qui sont difficiles. Puis ces décisions-là sont pas prises. Puis, il doit y avoir des coupures. Sinon, on fait quoi? T'as pas le choix. Soit que tu augmentes les impôts, on veut pas ça personne, ou tu coupes à quelque part. Puis là, ben, ce qu'on voit, c'est des annonces de dépenses, mais il y a rien de contrôlé et on veut surtout pas augmenter les taxes et les impôts. Donc, la ligne entre les deux, là, actuellement, ça en va toujours vers le rouge. Puis on voit pas comment on peut ramener ça, si ce n'est que d'avoir une économie qui est beaucoup plus forte. Puis là, ben, on vient de voir justement qu'on est en récession. Donc, on n'est pas là.
On parle souvent que Mark Carney a emprunté le livre des conservateurs au niveau économique avec ses différentes annonces et surtout ses annonces dans l'énergie. Qu'est-ce que les conservateurs feraient de différent de Mark Carney pour justement sortir de cette récession-là?
Ben, comme je disais un peu tantôt, par exemple, les barrières législatives, les barrières légales que les libéraux ont mis en place pour empêcher le développement des ressources naturelles. Donc, tout ce qui touche le pétrole, même au niveau des mines, les permis pour les mines, il y a énormément de lois contraignantes qui font en sorte qu'il n'y a rien qui peut avancer rapidement.
Mais il n'est pas en train de les contourner, Carney, avec ces annonces, ces lois-là?
Ben, c'est ça. L'année passée, on a voté d'urgence avec le gouvernement, le support du gouvernement, avec la loi C5 qui permettait de faire des grands projets au Canada. Mais cette liste-là n'existe pas encore. Donc, on a fait des annonces comme le port de Contrecoeur, mais ça n'a rien à voir avec la loi C5. C'était déjà en train de se préparer. Mais les grands projets, il a fait une entente avec l'Alberta. Mais comme je disais tantôt, il y a des lois qui empêchent de faire passer des pipelines. Fait que ces lois-là, ce serait pas compliqué de le dire, de refaire une loi à la Chambre des communes, de nous demander de supporter. On la vote en dedans de même pas une semaine, c'est réglé. Mais ça, ils veulent pas le faire, on n'entend pas parler. Donc, nous, on le ferait. Ce qu'on ferait de différent, c'est que tous ces éléments-là, qui sont de théoriques. Puis Mark Carney dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et dans les faits, on dit ben OK, mais l'exécution, où est l'exécution de tout ça? Alors que nous, on dit on va enlever la loi qui s'appelle la loi C-69 puis la loi C-48. Ben, ça serait déjà fait depuis un an. Donc, ça permet vraiment, parce que l'industrie pétrolière qui regarde ça, dit OK, c'est parce que vous nous dites que vous voulez faire des pipelines, mais vous laissez les lois en place qui empêchent de développer. Fait que quand vous serez sérieux, vous nous rappellerez. C'est le message qu'on entend.
OK.
Dans une récente décision, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada, ce qu'on appelle, nous, le CRTC, a forcé Netflix et Spotify à injecter 3 fois plus de leurs revenus faits en sol canadien pour la création de contenu local. Leur contribution, auparavant, c'était de 5 %, puis on voulait que ces entreprises-là contribuent à la hauteur de 15 % de leurs revenus. Puis le gouvernement de Mark Carney a reculé une fois de plus sur les exigences envers les géants du web. Et ce qu'on dit, c'est que finalement, c'est Ottawa qui va payer à la place des diffuseurs en ligne les redevances pour la création de contenu canadien. La position du Parti conservateur du Canada, c'était quoi là-dessus?
Bien, d'autres, on était contre l'imposition par le CRTC d'un 15 % supplémentaire. C'est parce qu'à un moment donné, c'est le contribuable qui finit toujours par payer. Puis là, on disait que c'est une taxe, c'est encore une taxe déguisée, parce que quand tu forces les entreprises à payer 15 % de supplémentaire, ben ce montant-là est refacturé aux contribuables qui ont des abonnements. Donc, pour nous, d'avoir de l'argent qui est mis dans la culture, c'est bien sûr que moi, comme Québécois, je suis d'accord avec ça. On doit aider l'industrie culturelle, canadienne également. Mais la façon de faire, c'est toujours de refiler la facture et d'imposer des taxes à des corporations comme ça qui nous refilent ça. C'était pas la bonne façon de faire. Mais là, les libéraux, au début, disaient non, les conservateurs, ça n'a pas d'allure. Puis finalement, on a décidé d'enlever ça. Parce qu'ils nous disaient au début, on peut pas s'ingérer dans les décisions du CRTC. Nous autres, on savait. On dit, ben non, vous pouvez faire ce que vous voulez, là, vous êtes le gouvernement, puis ça peut changer. Puis effectivement, c'est ce qu'ils ont fait cette semaine. Mais il reste que de l'autre côté, par contre, en reprenant de l'argent, puis en donnant l'argent, ben ça revient au même. C'est que tu prends encore l'argent des contribuables. Donc, tu sais, il y a des modèles. Les modèles sont pas faciles, mais il reste qu'à la fin, chaque décision qui est prise de dépense revient piger dans nos poches.
Monsieur Paulus, vous êtes député ici dans la région de Québec, Beauport, Haute-Saint-Charles. Qu'est-ce que vous pensez du projet QSL? Et est-ce que Olga Forman est la bonne personne comme PDG du Port de Québec pour mener les études environnementales?
Oui, j'ai vu les nouvelles passer là-dessus, puis j'en revenais pas. Là. Écoutez, on est faut se calmer. Là. Je pense qu'il y a eu un projet à l'époque, Laurentia, qui demandait un agrandissement de la surface, qui avait un empiètement dans le fleuve, qui avait un impact environnemental. Ça, il y avait des gens qui étaient réfractaires à ça, puis ils pouvaient comprendre. Mais là, le projet actuel, c'est un espace de terrain qui est déjà là, qui vont tasser des minéraux, les espèces de montagnes de minéraux qu'on voit. Il y en aura plus en partie, puis on va mettre des containers à la place. Donc, il n'y a pas d'impact environnemental là-dessus. Et le port a tous les outils pour faire une analyse et démontrer là, l'impact, là, de quel qu'il soit, sur l'environnement par rapport à tout ça. Et Olga Forman est une femme excessivement brillante, intelligente, très dévouée. Je la connais, je l'ai rencontrée souvent, puis elle travaille dans l'intérêt du port et de la région aussi, parce qu'avant d'être au port de Québec, avant d'être présidente du port de Québec, Olga est impliquée dans plusieurs organisations à tous les niveaux et a toujours eu de grands succès. Donc j'ai pleinement confiance en Mme Forman et j'espère que ce projet-là n'aura pas de bâton dans les roues parce qu'on en a besoin pour le développement économique de la région.
Je parlais avec Gabriel Hardy la semaine dernière, puis on parlait d'un fameux terrain qui était loué à peu près 20 000 $ qui était refacturé au gouvernement canadien à 20 millions de $ par année. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce fameux terrain-là qui servirait aux astronautes?
Oui, c'est un terrain, c'est pas pour les astronautes, c'est que c'est en Nouvelle-Écosse, c'est une plateforme de lancement de fusée. Au début, quand j'ai entendu parler de ça, je me demandais, j'ai dit, on est-tu en train de vouloir faire la NASA canadienne, là? Mais c'est pas ça. J'ai rencontré une entreprise.
Ben, faudrait demander à François-Philippe Champagne, parce que lui, c'est ce qu'il disait. Là. Quand les questions lui étaient posées, il disait, c'est curieux d'entendre vos commentaires, c'est négatif envers les astronautes. Il n'y avait aucun lien. Expliquez-nous ce dossier-là, c'est juste hallucinant.
Oui, ben c'est ça. C'est un grand terrain qui est une plateforme, dans le fond. Imaginons-nous là, que c'est une grande plateforme en ciment, grande comme deux terrains de football, si on veut, là, qui sert à des compagnies qui lancent des fusées. Mais les fusées, il faut s'entendre, il y a des fusées qui peuvent rentrer dans un camion. Là. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la NASA. C'est vraiment des fusées qui envoient des satellites, mais des satellites qui pèsent à peu près 200-300 livres. Là. C'est pas des grosses machines, mais il y en a 15 000 en orbite actuellement autour de la Terre, de ce genre de satellites-là. Donc, les compagnies vont là, c'est un pad de lancement, ils lancent leur fusée, puis le petit satellite s'en va en orbite, puis bonsoir. Fait que ça, c'est la fonction. Maintenant, le coût, ce qui est problématique, c'est que le montant que le gouvernement fédéral paye pour ça, qui revient à 20 millions par année, je pense, sur 10 ans, c'est 200 millions.
Il est loué 13 500 $ par année et il est refacturé au gouvernement fédéral à 20 millions de dollars par année.
C'est ça qui est le scandale, qui est dénoncé, entre autres, par Gabriel Hardy, mon collègue, et également Éric Lefebvre, qui pose énormément là-dessus toutes les semaines. Là. On a des questions là-dessus parce que j'ai vérifié, puis même les compagnies de lancement de fusées disent écoute, on comprend pas pourquoi c'est aussi cher. Ça, c'est vraiment là.
Mais qui a signé ce contrat-là?
Ben là, c'est ça. Là, il faut creuser davantage pour voir qui t'en a de ça, qui profite de ça et surtout pourquoi le gouvernement paye ces montants-là qui sont totalement injustifiés.
Parce qu'il y a quelqu'un qui se fait un méchant pourcentage
de profit.
Oui,
M. Champagne est un chic type, mais de répondre qu'on parle contre les astronautes quand on parle contre ce projet-là, c'est parce qu'il ne sait pas c'est quoi, quel projet fait, je pense. Parce qu'il n'y aura pas d'astronautes qui vont partir de là. C'est des petites fusées avec des petits satellites.
Non, j'ai bien ri. Je vais faire entendre l'extrait là, suite à l'entrevue que je fais avec vous, mais je vais faire entendre l'extrait aux auditeurs. C'est un extrait qui est disponible sur la page Facebook de Gabriel Hardy. Puis c'est exceptionnel, les échanges qui se font. C'était pour l'étude des crédits, de ce que je comprends, là, comité permanent. Est-ce que la tournée pour parler d'économie, de la récession technique au Canada, s'est terminée pour vous ou vous allez encore...
Oui, la tournée est surtout plus que sur la révision de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. On a un mandat avec ma collègue Shelby Trent Newman, qui est la porte-parole des affaires canadiennes-américaines. Et j'étais en compagnie de Jason Grolot qui m'a aidé à organiser tout ça. On a fait le tour, là ce matin, on était à Québec pour finaliser la tournée de cette semaine. On a fait la Beauce, Lévis, la Pocatière. Hier soir, on était à Saguenay, puis ce matin, à Québec. On rencontre des entreprises. On a 70 entreprises environ qui ont été rencontrées de tous les niveaux. Quasiment des multinationales avec des milliers de personnes ou des PME. On veut savoir qu'est-ce qui se passe à leur niveau là avec la révision de la CEM, parce que les changements qui ont été faits par Donald Trump là-dedans, il y en a, ça va très bien, d'autres que suite au changement que Donald Trump a fait avec un article, là, c'est très technique, mais tu sais, un article 232, ça a causé des problèmes majeurs, des pertes de business, puis des entreprises là, qui en arrachent, là. Fait que donc, nous, on voulait voir les zones d'ombre, qu'est-ce qui se passe pour être en mesure d'amener des points, honnêtement, positifs. Ma collègue parle régulièrement à Washington mardi avec le ministre Blair. On essaie de fider les libéraux en disant, écoutez, il y a des affaires que vous oubliez peut-être, là. Voici des informations de terrain qu'on récupère. On veut les aider. Puis de l'autre côté, s'ils n'écoutent pas, qu'ils font rien, ben on va brasser ça davantage parce que là, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des... En gros, ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises qui avaient déjà des installations aux États-Unis, ce qu'ils font, c'est qu'eux autres, ils prennent leur opération, puis ils accélèrent aux États-Unis, diminuent le travail au Québec ou au Canada. D'autres entreprises qui sont seulement au Canada, qui vendent aux États-Unis, sont en train de crever. Il y en a plusieurs qui ferment, puis il y en a qui s'endettent. Il y a un monsieur, il y a une entreprise dans l'aluminium, il dit, gars, ça fait 20 millions que j'emprunte juste pour survivre en attendant que ça se règle. Fait qu'à un moment donné, ça peut pas continuer. Donc, on est là-dedans, là, on essaie de voir, et également les fameux tarifs qui ont été imposés. Comme dans l'industrie du bois, par exemple, le bois qui est fait au Canada, il est taxé à 45 % du côté américain, mais quand tu es du côté européen, Donald Trump a mis des tarifs de 10 %. Fait que les Américains sont là, ils regardent ça, ils disent « Bon, je vais acheter mon bois en Europe. » Fait qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de bois acheté en Europe parce qu'il y a juste 10 %, tandis que notre bois, à nous, est à 45 % de tarifs. Fait que ça marche pas, là.
Non,
ça
effectivement.
Pas le même.
Pierre Paulus, un gros merci.
Allez, ça, les gars. Merci.
Au revoir. Bye-bye. Merci. Pierre Paulus, leader du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Je vous fais entendre l'échange incroyable qui a eu lieu entre Éric Lefebvre, Gabriel Hardy et François-Philippe Champagne. François-Philippe Champagne, c'est le numéro 2 au Canada. C'est le gars qui s'occupe de notre argent, de l'impôt qu'on envoie au Canada, effectivement. Je répète, là, on parle d'un terrain qui est loué par une entreprise, 13 500 piastres. Cette entreprise-là se vire vers le gouvernement du Canada et loue ce terrain-là 20 millions de dollars par année. Puis là, tu vas me dire, Yann, il était dans la marde. Ils vont faire ça juste sur un an. Non, 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 non. C'est 20 millions de dollars par année qu'on va louer ce terrain-là pendant 10 ans.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce terrain-là?
C'est une plateforme de lancement pour envoyer des satellites dans l'espace.
OK.
Mais il n'y a pas d'histoire d'astronaute. Je te fais entendre ça.
On parle de 13 500 $ qui est loué 20 millions. On parle d'un scandale financier. Les gens sont outrés. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui a négocié ce contrat-là et qui a signé ce contrat-là.
Peut-être que vous n'avez pas le même respect que j'ai pour les astronautes, mais les Canadiens ont beaucoup de respect pour nos astronautes parce que...
J'ai beaucoup de respect pour l'astronaute, mais j'ai beaucoup de respect pour l'argent que les Canadiens et les Canadiennes nous envoient ici pour qu'on gère comme de bons gestionnaires et de louer un terrain 13 500 $ et qu'on se tourne, le gouvernement libéral fédéral loue ça 20 millions par année pendant 10 ans, 200 millions. Ça, c'est un manque de respect envers les Canadiens et Canadiennes. Ma question est simple, Monsieur le ministre. Qui a signé ce contrat-là?
Président, comme je disais, j'inviterais mon collègue à parler aux gens de l'Agence spatiale canadienne, aux experts en matière de sécurité nationale, qui pourraient lui expliquer l'importance d'avoir un site de lancement pour lancer de
Monsieur
façon
le ministre,
un satellite géospatial.
Monsieur le ministre, vous ramenez sur les astronautes, c'est incroyable. On parle de 13 500.
C'est...
Mais admettons que tu mets la main sur ce contrat-là. Là.
Ben
toi,
oui.
Là, tu vois qu'il y a un terrain qui est là, qui est alloué par Max, OK? Fait que tu dis à Max, « Hey, ce terrain-là, tu me le louerais comment? »« Bah, toi, je te le louerais à faire un prix demi, là, 13 500. » Tu connais quelqu'un au Parti libéral, je te dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais tu connais quelqu'un au Parti libéral, tu te dis, hey, moi j'ai un beau petit site pour vous autres, un site là, sécuritaire, on met une plateforme là, du béton, merci, bonsoir, puis vous envoyez des satellites dans l'espace. Je vous louerais ça pendant, hey, je vais faire un deal, pendant 10 ans à 20 millions de dollars par année.
200 millions dans tes poches.
T'imagines-tu le profit?
Ben oui.
Fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La raison pour laquelle François-Philippe Champagne ne répond pas à la question, c'est qu'il sait qu'ils sont vraiment dans l'embarras.
Ben oui.
Quand il va mettre le nom sur l'individu, ça se peut qu'on ait de belles surprises.
200 millions dans tes poches pour 135 000 de dépenses sur 10 ans.
Oui. C'est payant avoir des amis au gouvernement. C'est très, très payant. Parlez-en aux gens de la Russie. Parlez-en aux gens de Cuba, parlez-en aux gens de la Chine. Quand tu as des amis au gouvernement, il y a de très grandes chances que tu deviennes un oligarque. Là. Mais ça n'arrivera jamais au Québec ou au Canada. C'est jamais arrivé.
Jamais.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation...